Les Clés de la Ville, en direct de Caen, une coproduction Radio Immo et Le Figaro Immobilier. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier Amepi, Arkéa Banque et Maxime.fr.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur le Tour de France de l'immobilier pour les Clés de la Ville. On nous a donné les Clés de la Ville ici dans un endroit magnifique. On ne pouvait pas rêver de plus bel écrin pour être reçu ici, dans cette bonne vieille ville de Caen. Nous avons été reçus par la mairie en présence du maire Joël Bruno qui nous a fait l'honneur de participer à cette émission. Je vous le rappelle, les Clés de la Ville, c'est l'émission pour les territoires. On va aller au cœur de la ville, au cœur des personnes pour parler toujours proche du terrain de ce qui nous occupe, c'est-à-dire la fabrique de la ville, toujours accompagné de mon fidèle complice Olivier Marin.
Comment ça va, Olivier ? Bonjour, très bien Sylvain, très heureux d'être ici.
Le sommaire d'aujourd'hui, Olivier.
Alors, merci Sylvain, donc cinquième rendez-vous, les Clés de la Ville, émission proposée par Figaro Immobilier et Radio Immo, émission mensuelle. Tous les mois, on se déplace effectivement dans une ville de France pour prendre le pouls, plonger au cœur d'une cité, par extension son territoire, parler immobilier bien sûr, mais pas que. C'est aussi révéler des secrets du passé, évoquer des réalisations architecturales, se projeter dans l'avenir à travers le logement, l'urbanisme, les façons de vivre et d'habiter, ça c'est notre promesse. Décrypter les tendances, dévoiler des projets et livrer les principaux enjeux d'une ville avec des reportages et des témoignages de personnalités emblématiques de la ville. Alors après Nantes, après Lyon, après Paris, après Toulouse, nous sommes à Caen. Et au sommaire de l'émission, notre grand témoin, on est très heureux d'avoir auprès de nous, c'est Joël Bruno, maire de Caen. Merci d'être ici.
Bonjour, merci à vous.
Qu'on a le plaisir d'avoir dans l'émission. Nous aurons également Hervé Ronco d'Alpha Normandie du fichier Amepi dans le Calvados pour parler immobilier. Nous aurons également Malek Resgui de Cedelca Europrom pour parler territoire, mais aussi des experts de l'histoire de Caen, de l'architecture, de la rénovation. C'est un sacré programme pour cette émission. Mais tout d'abord, Sylvain, si
avec
je vous
Maxime
dis...
Avec Maxime aussi, Pierre Leroy qui est avec nous voilà, pour la séquence Parlons mieux.
Parlons mieux. Sylvain, si je vous dis Caen, l'édito, c'est à vous.
Les Clés de la Ville, l'édito.
À quelques mètres d'ici, sous la coupole de l'abbaye aux hommes, trône fièrement le tombeau de Guillaume le Conquérant, roi d'Angleterre, celui qui a fait bâtir cet édifice et pour demander pardon au pape d'avoir, après avoir épousé sa lointaine cousine Mathilde de Flandre, la reine Mathilde, qui, elle, repose à l'intérieur de l'abbaye aux dames depuis presque un millénaire. Malgré la violence des batailles et les cruautés de la guerre, voilà, tous ces bâtiments sont magnifiques et nous rappellent notre belle histoire. En juin 44, la bataille de Normandie, alors tout le monde le sait, ravage la ville de Caen, près de 2000 civils tués dans la ville, ne jamais oublier le jour le plus long, qui s'est là, pour le coup, éternisé, une plongée infernale dans l'obscurité. C'est le 6 juin, dès 13h30, les Alliés larguent 156 tonnes de bombes sur la ville, faisant 500 victimes. Le lendemain, ils recommencent, mais les Allemands tiennent bon. Ils ont reçu l'ordre de tenir Caen, coûte que coûte. Le siège aérien ne fait que commencer. Il durera 6 semaines. À la fin de l'été, Caen est en ruine. Je vous propose, à présent, vous allez voir, on vous a préparé un reportage qu'on a tourné sur la longue reconstruction de la ville et devenir cette très belle ville aujourd'hui qui rend très attractif son territoire. Je vous propose qu'on le regarde.
De Caen, Pierre Lefebvre vous parle.
Ce soir, je veux vous conter l'émouvante prise d'armes à 8h30 ce matin dans la ville de Caen.
Dès l'aube du 7 juin, Caen, violemment bombardé, était en flammes. Puis, durant 20 jours, à maintes reprises, la cité fut plongée dans la fournaise.
Nous voilà donc place du Maréchal Foch, à Caen. Nous sommes en 2021. Et vous allez le voir, la ville de Caen ne s'est pas reconstruite en un jour.
Il a fallu gérer l'urgence, reloger toute une population et en même temps penser une ville sur le moyen terme, un équilibre difficile à trouver qui répond à des codes et des normes, comme l'explique Patrice Gourbin, historien spécialiste de la reconstruction de la ville de Caen.
Alors dans un premier temps, on va refaire des choses avec des formes assez proches de la ville traditionnelle, hein, des toits en ardoise, des murs en pierre, en pierre calcaire, comme il y avait dans la ville, et puis des formes qu'on reconnaît comme des formes régionales, traditionnelles, quoi. Mais dès le départ, de toute façon, les dimensions, elles sont normalisées. Donc les immeubles sont beaucoup plus larges et beaucoup plus hauts que ce qu'il y avait autrefois. Il y a beaucoup de vide dans la ville de la reconstruction, il y a beaucoup d'espace autour du château, beaucoup d'espace vert, beaucoup d'air, c'est l'air et la lumière, c'est vraiment les valeurs de l'époque. Hein. Donc c'est à la fois, ça semble un peu dans la continuité de ce qu'il y a, et à la fois c'est quand même différent.
Respecter l'identité de la ville, les matériaux, de la région, on l'aura compris. Mais l'idée également à l'époque, eh bien, c'est de lisser les inégalités sociales après la guerre. La frontière entre égalité et uniformité est parfois sensible.
Alors il y a vraiment des règles très, très précises pour encadrer la reconstruction, donner des règles de hauteur pour éviter que les sinistrés fassent des choses trop différentes les unes des autres. Hein, on aime bien. Rassembler les populations, gommer un peu le niveau social des habitants. C'est un peu l'état de l'esprit de l'époque aussi.
Une ville reconstruite avec une certaine idée de l'espace public, avec des grandes artères rectilignes à l'époque pour aider au déplacement en voiture. Aujourd'hui, le constat n'est plus le même. Elisabeth Taudière est architecte. Elle est également la directrice de l'association Territoires Pionniers.
Ces espaces de voiture, là, ils sont aussi des potentiels espaces publics appropriables par les habitants et par des activités, pour les familles, récréatives, des espaces aussi pour les associations, pour des moments festifs, pour des moments de convivialité. Et donc, il y a une transformation qui, petit à petit, me semble moins nécessaire pour justement reculer les voitures et donner cet espace aux habitants. Donc ça, il y a un travail aussi qui est entamé, mais qui demande à être conforté, enrichi, et en lien aussi peut-être avec les habitants de façon plus forte. Je crois que la ville va bientôt lancer une plateforme participative. Peut-être que ça va être l'occasion pour les habitants d'un quartier, d'un îlot, d'une portion de ville, de se mobiliser pour des espaces publics où ils puissent se retrouver, avoir des moments collectifs, et pas seulement penser pratique et voiture, mais plutôt penser aussi qualité de vie.
Caen ne s'est donc pas reconstruite en un jour, mais finalement, n'est-ce pas là l'idée de la ville d'être en perpétuelle reconstruction? On peut alors se demander à quoi peut ressembler Caen en 2030, par exemple.
Donc on a là, dans les mois qui viennent, un projet autour des visions partagées qu'on est hyper content de mener et qui est aussi pilote au niveau de la ville. Hein. L'idée, c'est vraiment aussi d'avancer sur ce quartier-là, mais de partager avec l'ensemble des habitants de la ville et de l'agglo pour pouvoir se projeter ensemble dans ces espaces-là. Donc des espaces plus végétalisés, des espaces qui permettent les déplacements doux, qui relocalisent un certain nombre de productions locales, artisanales, agricoles, et où chacun essaye de trouver sa place aussi, enfin, pas essaye, mais trouve sa place. Une ville, en tout cas, beaucoup plus ouverte peut-être, et puis surtout des scénarios à construire ensemble avec les forces locales, donc vraiment aussi des scénarios qui sur mesure pour chaque quartier.
La reconstruction de Caen a donc répondu à une stratégie nationale post-Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, évidemment, il faut à nouveau l'adapter pour que la ville de Caen conserve ce patrimoine.
C'est en déambulant d'ailleurs dans les rues de la ville qu'on se rend compte que cette histoire est si présente, si déchirante, de cette identité si forte. Ça évoque quoi quand vous entendez souvent qu'on catalogue Caen, monsieur le maire, comme étant la ville qui a été ravagée? Est-ce que ça colle un peu à l'étiquette de la ville ou pas?
Oui, incontestablement, c'est vrai que c'est une ville qui a été marquée par l'histoire, mais avec le moment tragique, évidemment, de la libération de l'Europe en 1944. Mais d'abord, toute la ville n'a pas été détruite. Nous ne sommes pas une ville qui a complètement été détruite. La partie qui a été reconstruite correspond environ à un bon tiers de la ville. Et d'ailleurs, ça a été plutôt très bien reconstruit. On a une architecture de la reconstruction tout à fait valorisante. Et il ne faut pas oublier qu'on a un patrimoine exceptionnel. Il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent se targuer d'avoir deux abbayes du 11e siècle en centre-ville, plus une enceinte féodale qui est la plus grande d'Europe du Nord, près de 6 hectares, là aussi en hypercentre. Donc voilà, la ville de Caen, c'est une ville qui à la fois incarne une certaine modernité et qui en même temps a un passé extrêmement riche et valorisant, parce que ayant eu une histoire tout aussi riche et valorisante.
Tout à fait. Alors, autre chose, il y a une tradition culinaire à Caen?
Oui, alors, très forte à Caen, mais c'est un peu général en France, mais particulièrement forte à Caen, parce qu'on a la chance d'avoir à la fois les produits du terroir et les produits de la mer.
Est-ce qu'on fait toujours autant des tripes ici?
Oui, mais pas seulement des tripes, hein, si vous voulez.
Il y a les tripes à la mode de Caen. Il y a aussi du rap à la mode de chez vous, vous saviez ça?
Ah ben, vous parlez des musiques actuelles, effectivement.
Alors, si je vous dis le rappeur le plus célèbre de Caen, vous le connaissez?
Ouais, ben, évidemment, Orelsan, mais voilà. il est un peu l'incarnation d'une scène de musique actuelle qui est extrêmement dynamique et qui a sorti, effectivement, pas mal de... Il n'est pas le seul, hein, Fakir,
oui, etc. Oui, il est très fier. Alors,
oui, Orelsan, c'est un bel ambassadeur. Alors, il insiste parfois un peu trop sur le fait qu'il pleuve dans les rues de Caen.
Oui.
Parce que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, il pleut beaucoup moins ici qu'à Bordeaux ou à Montpellier.
Ah bon?
Ah oui, c'est factuel. Alors après, c'est pas exactement organisé pareil. Ah non, mais c'est sûr. Je ne mens jamais d'ailleurs.
Avec Olivier, on s'est pointé quand même sous la pluie.
Non, mais oui.
On s'est dit, ça, c'est
si vous prenez la pluviométrie annuelle, il pleut moins qu'à Bordeaux ou à Montpellier.
Alors justement, on parlait d'Orelsan, mais vous savez, je vais vous dire une chose. Dans chaque ville où nous sommes descendus, il y a toujours un rappeur un peu célèbre. On a vraiment du bol. On écoute, justement. Dans ma ville, on traîne.
Le béton, les plaines, dans les rues pavées du centre, autour des magasins fermes. On passe les week-ends dans les zones industrielles, près des zones pavillonnaires, où les baraques sont les mêmes. Ma ville est comme la première copine que j'ai jamais eue.
Alors, je suis pas un amateur de rap, hein, bien sûr, etc. C'est intéressant. Il a parfois des paroles légèrement, quand même, un peu déprimantes, hein, quand il parle de sa ville. Mais surtout quand il évoque
les commerces. Parce qu'il était pas en forme le jour où il a composé la chanson.
Alors quand il évoque les commerces fermés, c'est sûr qu'en ce moment. Avec la crise.
Oui, bah évidemment, c'est beaucoup plus sympa quand on a nos rues animées par les terrasses. Nombreuses qui correspondent à une vie étudiante.
Comment vivez-vous justement cette période avec tous les effets économiques et sociaux en ce moment?
Alors, c'est vrai que la ville n'a pas son visage habituel. La chance de Caen, c'est d'avoir 30 000 étudiants pour un peu plus de 100 000 habitants. Donc ça vous donne une idée de un côté un peu bouillonnant de la ville, en particulier en soirée. Et c'est vrai que quand on arrive à Caen en temps normal, toutes ces terrasses avec toute cette jeunesse qui fait vivre la ville, ça donne évidemment une autre image que celle un peu déprimante de rue complètement vide au-delà de 18 heures.
Alors il y a une phrase qui est très jolie dans sa chanson qu'on a relevée. À chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment, ils détruisent une partie de mon passé. Est-ce que vous pensez, Joël Bruno, qu'une ville, c'est aussi une identité à travers ses bâtiments, quelque chose qui ressort à travers ses pavés, ses rues?
Oui, bien sûr.
C'est l'âme, finalement, de Caen.
Après, si vous voulez, je vous dirais, pour parodier un prof d'université que j'ai bien connu, qui était spécialiste du Moyen-Âge, c'est que quand Guillaume a construit, il n'a pas fait de l'imitation de Mérovingien, quoi. Il a fait aussi l'architecture de son époque à lui, hein. Et toute ville se reconstruit sur elle-même, c'est normal. Alors après, il y a des éléments du passé qu'on doit garder, qu'on doit valoriser. C'est ce que, je crois, toutes les municipalités essaient de faire, et ce qu'on essaie de faire ici à Caen en particulier, parce que c'est très bien qu'on est nous ne sommes que de passage, et nous sommes en quelque sorte un trait d'union entre l'avenir et le présent, entre le passé et l'avenir. Et donc, on se doit de garder effectivement un certain nombre de traces du passé, mais une ville, elle évolue aussi en fonction des aspirations de ses habitants. Parce que le but premier de tout ce qu'on doit faire dans une ville, c'est que de faire en sorte que les gens qui y vivent s'y trouvent finalement le mieux possible et le plus heureux possible.
Voilà, il y a un philosophe qui disait le maire d'une ville est le dépositaire éphémère, temporaire de son histoire. Ça vous plaît bien, ça, comme image?
Oui, en quelque sorte, c'est une responsabilité écrasante, mais...
Surtout quand on vous appelle le dimanche matin, à 3h du matin.
Non, on m'appelle rarement le
dimanche. Pour vous dire, il y a une poubelle au milieu de la rue, monsieur le maire, pour l'enlever.
Mais... En tout cas, quand je vous disais qu'on était que de passage, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut pas inscrire un projet parce que le but, le travail qu'on effectue quand on est en responsabilité, quand on a la responsabilité d'un maire, c'est évidemment régler les sujets du présent, tout en ayant effectivement en permanence la préoccupation de ce que va devenir la ville dans 25 ou 30 ans. Mais ça doit de toute façon, tous ces projets qui sont destinés à faire en sorte que la ville soit toujours la plus accueillante possible dans plusieurs décennies, ça doit jamais s'affranchir de ce qu'est l'histoire de la ville. Et d'ailleurs, on aura une très belle occasion, alors je profite de votre présence pour faire un peu de publicité.
Allez-y.
En quelque sorte, on aura d'ailleurs une très belle occasion de démontrer effectivement qu'une ville, c'est une longue continuité, puisqu'on fêtera en 2025 les 1000 ans de la ville de Caen. Ouais. En fait, c'est le 1000e anniversaire de la date, en réalité, Caen est plus ancien. Mais c'est la première fois qu'on trouve le nom de Cadomus dans des actes authentiques. Et donc, ce sera l'occasion de démontrer qu'on a certes 1000 ans, mais aussi beaucoup d'avenir, et que ces 1000 ans nous donnent de l'avenir, finalement.
Magnifique. En tout cas, merci de nous accueillir dans votre belle ville. On s'est proposé, Joël Bruno, de mieux vous connaître. Voilà, on a fait votre CV.
Les clés de la ville, le CV de l'invité.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sylvain, bonjour Olivier, bonjour monsieur
Nicolas.
Le maire.
Nicolas, le CV de l'invité.
Eh bien écoutez, Joël Bruno, pour être franc avec vous, je cherchais un titre pour cette chronique. Et en faisant mes recherches, il y en a un qui est venu assez naturellement, la politique du coureur de fond. Tout semble vous réussir, vous le natif de l'Indre. Vous avez grandi à Aize, un village qui se situe dans le Triangle d'Or, Vierzon, Saint-Aignan, Châteauroux.
Oui, en termes d'immobilier, c'est moins porteur que d'autres, oui, c'est un fait.
Je dis ça, mais je viens de Limoges, donc c'est pas forcément mieux.
Bienvenue au club, alors comment on vit ?
Bref, vous avez découvert l'école dans la classe unique de l'école élémentaire d'Aize, qui est aujourd'hui malheureusement fermée. Après, il y a eu le collège de Vatan, puis le lycée Pierre et Marie Curie à Châteauroux, avant la fac de droit et Sciences Po. Vous êtes un surdoué, Joël Bruno, et un sacré sportif aussi, on est en 1985, et vous venez de remporter un 5000 mètres face au ténor de l'époque, sur la cendrée de Gaston Petit à Châteauroux, sacré perf. Oui, vous êtes fait pour le cross long, c'est une certitude et ça ne trompe pas.
D'ailleurs, mes genoux s'en souviennent.
Vous avez été notamment du coup couronné deux fois champion régional de l'Indre de cross. La boue, la pluie, l'effort, le vent de face. J'aimerais beaucoup, après l'émission, discuter demi-fond avec vous. J'en ai fait aussi pendant presque 20 ans. Vous avez un superbe palmarès et mes genoux s'en souviennent aussi. Vous êtes installé en 1989 à Caen, oui, pour suivre votre entraîneur. Vous avez alors remporté plusieurs courses.
Oui, je suis arrivé effectivement ici par le biais du sport, c'est un fait.
C'est un fait, et vous y êtes resté. Vous avez donc remporté plusieurs courses régionales, dont la très réputée Alençon-Médavie. Je suppose qu'on doit vous poser la question approximativement tous les 10 ans, car oui, vous avez été pendant très longtemps le dernier vainqueur français de cette épreuve. Et comme ça fait 10 ans qu'on ne vous a pas posé cette question, Joël Bruno, êtes-vous le dernier vainqueur français de cette course ?
Oui, je crois, mais effectivement, on m'appelle effectivement tous les 10 ans pour en parler, ce qui me vieillit à chaque fois évidemment beaucoup. Mais bon, c'est ainsi. Enfin, cela dit, Alençon-Médavie, c'est bien, mais c'est quand même pas la finale des Jeux Olympiques.
C'est quand même une super course réputée dans la région.
Oui,
en tout cas, voilà, vous êtes tranquille pour les 10 prochaines années. Vous abordez la politique avec la même passion et patience que le coureur de fond. Après avoir été président de la Ligue d'athlétisme de Basse-Normandie de 1996 à 2004, vous devenez, 4 ans plus tard, en 2008, président de l'UMP du Calvados. En 2010, vous êtes élu conseiller régional de Basse-Normandie et vous prenez la présidence du groupe UMP à la région. 2012, c'est malheureusement pour vous l'année d'une défaite aux législatives face à Philippe Duron. Tombé pour mieux se relever, le 23 mars 2014, Joël Bruno, eh bien, vous sortez vainqueur du premier tour des municipales à Caen et au second tour, après avoir réalisé la fusion avec la liste centriste de Sonia de la Provôté, vous accédez au poste de maire. L'an passé, vous avez été élu pour un deuxième mandat dès le premier tour, un nouveau succès, on ne vous arrête plus d'ailleurs. À ce sujet, vous ne voudriez pas redevenir le dernier vainqueur français de l'Alençon-Médavie? Non, parce que la course est le 28 mars prochain.
J'aurais sans doute beaucoup de mal, et d'ailleurs, comme je sors d'une infiltration au genou, si vous voulez, ce serait
ça
pas prudent.
Pas. Oui, non, ça aide pas.
Non, mais effectivement, c'est l'histoire de... J'ai eu plusieurs, en quelque sorte, je fais partie de ces gens qui aiment bien avoir plusieurs vies dans une vie, quand on peut. C'est vrai que j'ai un passé de sportif important, et puis il y a quelques similitudes entre le sport et notamment l'endurance et la politique. C'est vrai que la persévérance dans la vie, en général, ça aide.
Parlons bien, c'est la séquence suivante.
Les clés de la ville. Parlons bien avec le fichier Amépi.
C'est le moment de faire un coup de projecteur sur l'immobilier, on va dire Canet, avec notre invité en plateau, responsable du fichier Amépi, on va dire sur l'ensemble Calvados, on va être assez large, Hervé Ronco, bonjour et merci d'être présent.
Merci.
Et puis fichier Amépi, donc partage de mandat. Et vous êtes également à la tête de plusieurs agences, je crois. Là, c'est Century 21.
Oui, c'est une seule agence.
Bon, ça viendra peut-être.
Alors, vous êtes ce qu'on appelle un alpha.
Un Alpha, voilà.
D'accord, votre second prénom, c'est pas Roméo, par hasard?
Non.
D'accord, ok. Donc, Alpha, ambassadeur local du fichier AMEPI.
Absolument.
Il faut rappeler que le fichier AMEPI, c'est une association, donc c'est un esprit associatif.
Absolument.
Un outil pour l'ensemble des professionnels de l'immobilier.
Oui.
Alors.
Extrêmement intéressant.
Oui, absolument. Alors, peut-être trois chiffres clés. Le premier, c'est 2500, comme 2500 euros. Ça, c'est le prix moyen au mètre carré d'un appartement ancien, selon les dernières statistiques des notaires. Alors, évidemment, c'est une moyenne. 11,11%. Ça, c'est la hausse des prix annuels à Caen. Alors, est-ce qu'il y a eu un effet rattrapage ou est-ce que cette dynamique aussi, on peut l'interpréter comme une dynamique, va se poursuivre? Ce serait intéressant d'avoir votre point de vue. Et puis, 230 000 euros, ça, c'est le prix moyen d'une maison ancienne à Caen, avec une hausse annuelle plus modérée. On est autour de 3%. Caen, en tout cas, qui est toujours bien classé dans le palmarès des villes où investir. Alors, vous qui êtes l'un des meilleurs spécialistes de l'immobilier cannais, vous allez nous éclairer. On va prendre avec vous les clés de la ville, peut-être aussi les clés des champs. Et tout d'abord, en cette période particulière de crise sanitaire, comment se porte le marché immobilier à Caen?
Aujourd'hui, le marché se porte bien. On pouvait s'attendre à une baisse des volumes importante puisqu'on a eu 3 mois d'inactivité, donc ça pouvait générer 25% de volume de vente en moins, et ça n'a pas été le cas sur Caen et sur le bassin cannais. Donc c'est plutôt encourageant.
Ça démontre, ça met en relief l'attractivité du territoire.
Oui. D'accord. Il y a une attractivité du territoire. Il y a eu un effet de rattrapage par rapport aux 2 mois de confinement du printemps, on va dire.
Mais sur les prix, là, typiquement, quand on ne connaît pas Caen, et on peut se dire, mais plus 11% en un an de hausse, c'est quand même beaucoup.
Ah oui, c'est beaucoup.
Alors, sur les prix, on est tous unanimes avec mes confrères pour quand même affirmer qu'il faut énormément de discernement sur l'évolution des prix. En effet, en moyenne, on peut constater du plus 10, plus 11. On peut constater aussi des prix à la baisse sur certains types de biens.
Exemple
des biens qui vont être énergivores, qui vont...
Ah oui, d'accord, c'est valable pour tous les types d'habitations. Qui ont une étiquette énergétique.
Absolument, et ça va être amplifié avec l'évolution.
Bien sûr, et ça sera d'ailleurs bientôt plus possible de vendre.
Tout à fait. Donc il faut quand même beaucoup de discernement, et sur Caen et sur le bassin
canadien. Alors, non mais justement, vous qui êtes vraiment le spécialiste dans le domaine, si l'on devait prendre une photo aujourd'hui avec différents quartiers, on prend un peu de recul, quelle est l'évolution? Quels sont les secteurs les plus demandés, peut-être les plus chers ou les plus abordables?
Où investir à Caen? Voilà, quels sont dans le ranking un petit peu des quartiers?
Le centre-ville historique reste toujours forcément une valeur de référence.
Donc là, des prix moyens au mètre carré, on est à combien à peu près?
Des prix, oui. Certains de mes confrères cannais m'annonçaient tout à l'heure à plus de 4000 euros du mètre carré.
Ah oui,
quand même.
Donc on est loin, en effet, des chiffres annoncés autour des 2005.
D'accord.
Mais on a aussi, à contrario, sur des secteurs qui évolue très vite en ce moment, sur des secteurs proches de l'Aide-Milune ou autres. Il y a des ventes qui sont réalisées à 1 700 euros du mètre carré.
Donc là, on est plutôt au sud, à l'ouest.
Sur la sortie est de Caen. Où récemment, une maison 90 mètres carrés s'est vendue 180 000 euros. Mais c'était une maison dans laquelle il y avait énormément de travaux à réaliser, travaux structurels et travaux de confort à rapporter. Donc il faut avoir ce discernement.
Des quartiers qui ont pris une valeur particulière ces dernières années en fonction d'aménagements urbains ou de différentes choses. Alors lesquels, par exemple?
Par exemple, ces quartiers au-dessus de la gare et autres sont en pleine mutation parce que le temps passe, les générations se succèdent et des jeunes investissent dans ces quartiers-là parce que ce sont des prix un peu plus abordables et contribuent à embellir.
Il faut parier d'ailleurs sur ces quartiers, effectivement, pour justement qu'ils se renouvellent. C'est des bonnes options d'investissement, non?
Oui, actuellement, oui, bien sûr.
Donc pour vous, un marché quand même dynamique pour l'instant. Quand intramuros, maintenant, si on s'éloigne un petit peu, les communes autour, là aussi, est-ce qu'il y a une attractivité particulière?
On peut constater une première couronne qui va être une couronne qu'on qualifie, nous, de la couronne bus de ville. Mais il y a un attrait qui est important sur notre secteur, qui est déterminé par la facilité des réseaux routiers. Donc on a des réseaux Caen Ouistreham, Caen Douvres, Caen Courseul, qui sont assez facilitants historiquement, qui ont plus de 25 ans, 30 ans d'existence. Donc ce sont des secteurs qui sont entre Caen et la mer, on va dire. Donc il y a l'attrait de la mer, inévitablement. Mais vous avez aussi des nouvelles voies qui sont, alors j'ai pas les dates précises en tête, mais qui ont peut-être 15 ans, les voies du Zénith, enfin 15-20 ans, les pénétrantes par le Zénith et autres, qui ont contribué à développer des secteurs comme Éterville, Louvigny et autres, qui ont contribué à tirer le marché immobilier.
Et est-ce que la ville de Caen fait partie de ces communes, en fait, ces villes qui ont attiré des Parisiens notamment ou d'autres venant de l'extérieur depuis tous les effets de la crise sanitaire avec ses impacts ou pas?
Est-ce qu'il y a une fuite des
mouvements ou est-ce que c'est une...
Ça ne semble pas flagrant chez nous.
D'accord.
Quand on en parle entre nous, il y a en effet peut-être... mais c'est un épiphénomène encore, c'est pas flagrant, on ne ressent pas des vagues de Parisiens qui viendraient
investir. Et vous,
investir.
Joël Bruno, est-ce que vous sentez les impacts effectivement d'une nouvelle population avec la démographie peut-être vous êtes sur une démographie positive ici?
Oui, alors il y a une inversion pour la première fois depuis très longtemps, parce que c'est une ville-centre qui a perdu des habitants, notamment sous l'effet de la décohabitation, etc., et puis d'un étalement urbain sans doute un peu exagéré qui a été fait au cours des 30 ou 40 dernières années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit ici ou là, enfin ponctuellement, on a des indices, si vous voulez, des indicateurs d'un certain nombre de nouveaux arrivants, en particulier venant de la région parisienne.
Ah, mais vous avez des indicateurs.
Mais en revanche, on n'a pas de quantification objective, quoi. Donc c'est encore trop tôt, je pense. En revanche, ce dont je suis persuadé, c'est d'ailleurs on y travaille, c'est qu'on a, en fait, on coche toutes les cases de ce que peut rechercher, en particulier un jeune couple d'actifs qui souhaite quitter la région parisienne, parce qu'on associe à la fois, effectivement, une agglomération à une ville de taille humaine, ce qui donne une vraie qualité de vie, de surcroît proximité de la mer, avec en même temps une dynamique économique qui offre aussi des emplois, parce que c'est quand même à la base de ce dont a besoin quelqu'un pour s'installer quelque part.
Mais vous avez entièrement raison. Et Joël Bruno, d'ailleurs, sur l'évolution de ces prix, sur ces plus 11% pendant un an, d'après les notaires, comment vous l'interprétez? C'est bien, ça prouve la dynamique de Caen, ou au contraire, attention, les prix commencent à trop augmenter?
Oui, comment vous l'observez?
D'abord, il y a un phénomène un peu général qui fait qu'aujourd'hui, la pierre est considérée comme une valeur refuge et dont le potentiel de valorisation est sans doute meilleur que, par exemple, la bonne vieille assurance vie en fonds euros, tout simplement. Il y a déjà cet aspect-là. Et puis, il y a la deuxième chose aussi, c'est que je pense, effectivement, que en particulier sur la ville, on voit revenir un certain nombre de personnes qui, avant, justement, s'étaient éloignées et qui... parfois sous la pression de leurs propres enfants, veulent se rapprocher pour bénéficier de toutes les activités sportives, culturelles qu'une ville comme la nôtre peut offrir, avec en plus un réseau de transport en commun relativement étoffé, quoi.
Donc c'est tout, mais sur l'aspect prix, il n'y a pas plus d'étonnement que ça, vous pensez que
on est de toute façon une ville qui, depuis qu'on a réussi à surmonter, comme d'autres, le choc des années 88, 88-90, depuis cette époque-là, et en particulier sur les 7-8 dernières années, on a un marché immobilier extrêmement dynamique. Chaque année, sur la ville de Caen, on est aux alentours de 1000 logements neufs construits pour lesquels il n'y a pas de difficulté de commercialisation. Le stock n'augmente pas.
Vous continuez à signer des permis de construire.
On continue bien sûr à signer des permis de construire.
Ça va faire plaisir aux promoteurs.
Et la chance qu'on a aussi à Caen, c'est que, quand vous parliez tout à l'heure de garder des traces du passé, on a aussi la chance de reconstruire la ville sur la ville, dans certains quartiers, en particulier sur l'ancien quartier industriel au portuaire, ce qu'on appelle la Presqu'île, qui est à l'échelle nationale d'ailleurs, un espace reconnu par l'État d'intérêt majeur, un peu l'équivalent de ce qu'a connu Nantes avec l'île de Nantes il y a 15 ou 20 ans. Et la Presqu'île, c'est à terme 2500 logements sur les 15-20 dernières années, en hyper proximité du centre-ville, avec effectivement des premières phases qui sont lancées en programme immobilier neuf, qui ont trouvé... Il y a ici dans la salle des gens qui connaissent le sujet mieux que moi.
Mais on va l'évoquer tout à l'heure, les aménagements urbains, l'immobilier neuf et tout ça.
Voilà, ont effectivement trouvé des preneurs à des niveaux relativement élevés. Oui.
Juste pour revenir sur l'aspect véritablement logement, là aussi ça peut être l'aspect investisseur, quand on voit que des villes comme Paris, comme Lille, comme dernièrement Bordeaux, Lyon, mais aussi Grenoble ou Strasbourg, font une politique d'encadrement des loyers. Quelle est, vous, votre position dans le domaine?
D'une manière générale, je ne suis pas très économie administrée. Alors, ça vient de plus en plus à la mode, hein. Je sais bien, je pense que ça va être un des sujets des prochaines présidentielles, puisqu'on va nous proposer globalement de réindustrialiser la France de manière administrative et puis de jamais rembourser les dettes. Mais pour être plus sérieux, d'une manière générale, chaque fois qu'on cherche à administrer administrer beaucoup les mécanismes naturels de l'offre et de la demande, qui ne sont pas parfaits. Hein. Bon, il y a souvent de gros inconvénients. L'encadrement des loyers, souvent, ça a été en même temps la conséquence principale a souvent été la pénurie d'offres. Hein, la pénurie d'offres. Alors nous, on préfère ici à Caen plutôt trouver des solutions, non pas d'administration, mais quand même de nous organiser via un office foncier solidaire pour proposer. Je vous parlais tout à l'heure, du quartier de la Presqu'île. Sur la Presqu'île, vous aurez sur 100 logements, vous en aurez 30 qui seront en logement social, et vous en aurez 20 qui seront en accession à la propriété sous forme d'office foncier solidaire, c'est-à-dire que les gens n'achèteront jamais le foncier, mais uniquement l'appartement, ce qui nous permettra d'accueillir ce qu'on pourrait appeler une classe moyenne, en particulier
des gens. Mais donc pas d'encadrement des loyers, en tout cas,
non,
à
non,
Caen.
Enfin, en tout cas, c'est bon, pas du tout.
C'est la loi de Jean-Luc Laglaize, effectivement, qui permet de séparer le foncier du bâti et qui permet un accès plus facile. Le taux de logements sociaux à Caen, il est de combien ?
On est un petit peu moins de 30%. Ce qui est une caractéristique de la ville par rapport à d'autres, peut-être, c'est qu'on a en revanche un certain nombre de quartiers qui sont uniquement de logement social, sur lesquels il y a eu de gros efforts de fait depuis 15 ou 20 ans dans le cadre des opérations de renouvellement urbain. Mais l'un de nos objectifs, c'est effectivement de remettre de la mixité dans ces quartiers et d'en remettre aussi, évidemment, de remettre de la mixité également dans les quartiers où il n'y avait jusqu'ici pas du tout de logement social, pour avoir ce qu'on pourrait appeler une sorte de peuplement harmonieux, toujours dans cette idée de participer en gros à une qualité de vie pour tous.
Et une très grande partie d'ailleurs des logements cannais, 55% ont été construits entre 1949 et 1974.
Tout à fait. C'est pas du tout lié qu'à la reconstruction de la ville. Hein. C'est surtout lié à l'expansion de la ville qui s'est faite surtout dans les années 60-70. Hein. C'est une ville qui a connu une très grosse expansion à ce moment-là, puisque le summum en termes de population a été atteint de mémoire, je crois que c'est en 76. On est monté à 100, tout près de 130 000 habitants.
Contre combien aujourd'hui ?
Voilà, alors qu'aujourd'hui on est à 106 000. Donc, alors pour la première fois, on commence à retrouver des habitants. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu toute une période, notamment, il y a une quinzaine d'années, où en fait on construisait très peu sur Caen. Hein. Les règles d'urbanisme étaient extrêmement précautionneuses, je sais pas comment il faut le dire, ce qui fait que effectivement ça avait participé en quelque sorte à limiter la reconstruction et il faut aussi que nous gardions de toute façon une offre de neuf, parce que le neuf c'est aussi une autre manière d'habiter, c'est aussi des nouveaux produits qui sont proposés et ça participe évidemment à l'attractivité.
C'est un sujet d'ailleurs qu'on va développer tout à l'heure dans l'émission. Vous voulez poser une question,
oui, voilà. Dernière question, et là vraiment on a besoin, il faut se mouiller un peu, vos bons conseils, avec 150 000 euros ou avec 200 000 euros, qu'est-ce que l'on peut acquérir à Caen ou la région actuellement ? Quels sont vos conseils ?
Aujourd'hui avec 200 000 euros on achète un appartement dans 2-3 pièces, 3-4 pièces.
Quel secteur ?
En périphérie du centre-ville.
Oui.
Et on achète une maison vraiment là, en périphérie de la ville, avec des travaux.
Quel type de budget, typiquement, pour une maison assez grande ou...
Aujourd'hui, le cœur de cible de la ville de Caen, c'est 250-270 000 euros. Mais très rapidement, on est entre 250 et 300 000 euros. Il faut flirter avec les 300 000 aujourd'hui pour trouver
accessible,
une maison avec...
mobilité, accès autoroutier.
Ouais, tout à fait.
Mais est-ce qu'il y a des opportunités ? Est-ce qu'il y a des endroits particuliers ou pas ? Je vous trouve très
sage.
On est là aussi. Figaro Immobilier, on a besoin de savoir. Enfin, dans chaque ville, on demande, dites-nous un petit peu, révélez des petits secrets, des petites choses.
Il y a des secteurs... Venoy fait partie des secteurs attirants.
C'était le stade de foot où il y avait
de foot, voilà, il y a ces secteurs-là,
avec
justement un secteur qui a été urbanisé dans les années 70, donc qui peut être embelli, donc avec des conditions d'accès, avec des prix un peu moins élevés, mais des secteurs où il y a du droit à construire sur les terrains, des choses comme ça, donc ça permet de faire des extensions, ça permet de rebondir pour un couple de primo.
Ah, une opportunité.
Oui, je pense qu'il y en a d'autres, hein. Quoique en tant que maire, je m'interdise évidemment d'investir dans ma propre ville, mais en tout cas, si je devais investir, moi je privilégierais en particulier les secteurs de la reconstruction, en particulier l'îlot Saint-Jean, sur lequel de surcroît on peut bénéficier du dispositif fiscal de Normandie et qui offre en fait des appartements qui sont souvent très agréables, dans lesquels il y a évidemment besoin de faire un certain nombre de travaux certes, mais qui sont souvent des appartements traversants, bien orientés, lumineux et où il y a effectivement aujourd'hui des vraies opportunités, en ce sens que Bon, quand même, la règle de l'immobilier, c'est quand même le placement, le placement, le placement. Oui. C'est quand même hyper bien placé, oui, c'est vrai. En hypercentre. Et aujourd'hui, vous pouvez trouver des biens qui sont, allés, on va dire, aux alentours de 2000 euros le mètre carré, et qui jouxtent des immeubles neufs qui, eux, sortent à...
Des petites surfaces, des moyennes surfaces.
Qui vont sortir à 4500. Donc, j'ai tendance à penser qu'entre le 2000 rénové et le 4500, il y a un moment où ça se rapproche. Okay, mais bon, c'est juste un conseil amateur.
Il y a une question complémentaire qu'il faut que nous posions à Hervé. Hervé, le taux moyen de la location. Est-ce qu'on peut louer facilement à Caen?
Oui, on loue facilement.
Quel est le prix moyen de la location?
Le prix moyen annoncé, il est de 545 euros.
Par mois?
Oui, par mois, absolument.
Mais le prix moyen au mètre carré, il est de combien? 9 euros, 11 euros, 10 euros?
On est entre 10 et 12 euros.
D'accord. Dans le top,
ouais. C'est un peu calé sur le Pinel.
C'est un peu calé sur le Pinel, absolument.
Vous voulez dire qu'il y a des options qui sont liées quand même beaucoup à la fiscalité du Pinel? C'est ça que vous êtes en train de dire?
Oui. En tout cas, il y a, dans le neuf, effectivement, on a beaucoup d'investisseurs en Pinel. Un peu une caractéristique.
Okay. Donc ça permet de plafonner les loyers
trop, non, plutôt que des accédants.
Ce serait mieux, ouais, qu'on ait davantage d'accédants, objectivement. Cela dit, les investisseurs souvent deviennent accédants. Parce que le schéma qu'on voit classiquement, ce sont des gens qui habitent qui sont d'abord des locaux avant tout, qui sont originaires majoritairement du Calvados, de l'Orne ou de la Manche, et qui, pour beaucoup, alors c'est un sujet en termes d'équilibre de la population sur la ville, mais dans les programmes, entre guillemets, un peu haut de gamme, on a beaucoup de personnes qui achètent en prévision de leur retraite pour bénéficier des avantages de la ville. À ce moment-là.
On enchaîne avec la prochaine séquence. On va parler de bien mieux.
Les clés de la ville. Bien mieux avec Maxime.fr.
Monsieur le maire, je vous présente Pierre Leroy, le président du groupe EP, avec une plateforme qui s'appelle Maxime, M-A-X-2-E-M, et il va nous parler de rénovation énergétique. Comment ça va, Pierre ?
Impeccable, Olivier, Sylvain, Monsieur le maire, mes hommages.
Et vous savez quoi, à chaque fois que je vous la fais quand même Toulouse. Mais... Comment ça va, Pierre?
Ça va bien.
Je vais me prendre pour Pierre Bellemare. Allez, on vous écoute.
Une première place pour la ville de Caen. Selon une étude publiée l'an passé, votre ville, monsieur le maire, est la ville où les passoires thermiques ont le plus diminué en 2020, moins 38%. Des chiffres donc, et des lettres, celles de la performance énergétique, A, B, C, D, E, F, G. Et pourtant, le compte n'est pas totalement bon. Avec notre service data chez Maxime, eh bien, on a constaté que c'était une première place en trompe-l'œil. De toutes les villes dans lesquelles nous avons posé nos valises, c'est la première fois que la classe prédominante n'est pas le D. Le constat, disons-le tout de suite, c'est le même qu'on se place sur le marché de la location ou sur celui de la vente. On arrive à près de 40% de biens classés en E, F, G, avec une dominante sur le E. Et on l'a dit, on l'a vu aussi dans le reportage diffusé un peu plus tôt dans l'émission, Caen ne s'est pas reconstruite en un jour. 38% des logements datent d'avant 1970 et 12% datent d'avant 1945 et peuvent être donc considérés comme énergivores. Voilà pour le constat inhérent à cette ville de plus de 105 000 habitants, 106 000, je corrige, j'ai entendu tout à l'heure, plus du double évidemment si l'on se place du point de vue de Caen-la-Mer. Alors c'est vrai, après la pluie, le beau temps, ça se lève, comme on dit ici, et il y a un véritable vivier de logements à rénover à Caen, même si notre équipe data chez Maxime a mis du temps à trouver la rénovation énergétique, c'est bon lapsus, il est très bien, dans le PLH de la communauté d'agglomération de Caen-la-Mer. On a attendu la page 233 précisément pour y trouver quatre axes principaux dans la stratégie. Un, objectiver les travaux de rénovation énergétique, notamment pour les ménages en situation de précarité. Accompagner les ménages dans leurs travaux d'économie d'énergie, généraliser les préceptes de l'éco-construction pour les bâtiments et les équipements publics, et puis maîtriser et gérer l'énergie dans les procédés et les bâtiments industriels. Est-ce à dire que la responsabilité de la rénovation énergétique se retrouve sur les épaules du parc privé? Non, évidemment. Vous, la mairie, eh bien, vous mettez en place des dispositifs incitatifs, comme par exemple, un peu à la manière d'autres régions, un chèque éco-rénovation avec des critères beaucoup plus larges que les aides classiques. Les montants alloués du chèque de Caen et de la région Normandie sont très conséquents. On monte jusqu'à 9 500 euros. Et puis, on peut également citer les dispositifs Habiter Mieux, MaPrimeEnergie, Certificat d'économie d'énergie, bien sûr, ou encore les exonérations de taxes foncières proposées par la ville. À noter aussi que la ville de Caen a réduit en 6 ans de 80% sa consommation de fuel dans les bâtiments de la ville.
C'est top ça.
Ce qui est considérable. On le redit, Sylvain, ça va dans le bon sens, mais il faut aussi que ça aille plus vite. La question est simple, comment réussir à combiner le confort de vie personnelle, l'emploi local et l'économie sur la facture énergétique du pays? D'autant que pour être dans le match, on sait que la France doit passer de 280 000 à 500 000 rénovations par an. Prenons l'exemple du parc privé. Dans une zone comme celle de Caen, où il n'y a pas une forte tension sur le marché, la rénovation énergétique d'un bien aura un impact évident sur son prix de vente. Un cas d'école, disons 18 000 euros de travaux dans une maison pour la faire passer d'une classe E à une classe C. On change les portes, les fenêtres, on refait l'isolation. Bref, le prix net vendeur à la suite des travaux monte à 230 000 euros, soit un gain de 20 000 euros sur la valeur du bien. On pourrait le résumer comme ça, c'est rentable finalement d'acheter, de rénover et de revendre. Le ROI est quasi immédiat sur ce type de bien. Et puis il y a un élément que nous n'avons pas encore évoqué, qui est plutôt d'ordre géostratégique, n'est-ce pas ? Idéalement placé entre Paris et la mer, à 2 heures de train, Caen a une carte évidente à jouer pour attirer de nouveaux habitants et surtout éviter d'en perdre. Un parc rénové permet l'opération séduction, surtout dans une période de crise frappée par une pandémie mondiale qui contraint les entreprises à recourir au travail à distance. Caen a désormais toutes les cartes en main.
Intéressant.
Oui, oui, je ne peux qu'applaudir des deux mains. Oui. Alors sur le PLH, j'avais peut-être l'ancienne version que vous aviez vue, parce que l'un des objectifs du nouveau PLH qu'on a adopté il y a moins d'un an maintenant, enfin un peu plus d'un an, c'est vrai que en tout cas avant les dernières échéances municipales, c'était que, évidemment, l'un des objectifs, c'était de remettre à niveau une partie de notre parc immobilier existant et de justement mettre l'accent sur tout ce qui peut faciliter la démarche des individus, parce que évidemment, l'enjeu, il n'est pas que sur le parc social qui a déjà fait un gros travail, mais aussi sur le parc privé. Et le parc privé, souvent, c'est aider les gens à y voir un peu plus clair dans différentes aides pour franchir le pas, parce que effectivement, je prenais l'exemple tout à l'heure de certains appartements reconstruits dans les années 60 ou 70 ou même avant, qui sont souvent des appartements mal classés sur le plan énergétique et où, avec un minimum de travaux, on trouve une très bonne valorisation, ne serait-ce que parce qu'ils sont bien situés dans la ville.
Merci beaucoup, monsieur le maire.
Les clés de la ville. Parlons territoire avec Arkéa Banque.
Nous, alors, avec vous, on va parler notamment du marché du neuf, avec quelques chiffres clés, quelques tendances, une baisse des permis de construire et des mises en chantier, un prix de 3300 euros par mètre carré en moyenne dans le neuf sur Caen Métropole, des prix qui sont plutôt stables. Une offre qui se réduit, moins 29% sur un an pour les mises en vente, des réservations qui sont en baisse, moins 37% sur un an, forte baisse également des ventes à investisseurs en Pinel, moins 40%, moins 32% en accession, bureaux, logements, télétravail, des programmes mixtes peut-être à inventer, des aménagements aussi à repenser. Déjà, est-ce qu'on construit beaucoup à Caen, et quel est le rapport entre promoteur privé et la municipalité?
Alors, je rappelle que vous êtes le patron de CDLK Europrom, donc un promoteur très inscrit dans le territoire. Merci d'être avec nous.
Merci Olivier, merci Sylvain. Quelques petites précisions sur le groupe, petite correction.
Oui, peut-être.
Sylvain, puisqu'en fait le groupe CDLK Europrom s'appelle aujourd'hui le groupe CDLK. Il se décline en plusieurs CDLK, CDLK Normandie, CDLK Île-de-France et CDLK Grand Lyon, puisque nous avons un groupe qui se déploie sur le territoire. Nous sommes les relais de Guillaume le Conquérant. Nous sommes dans la conquête.
Vous n'êtes pas encore arrivé en Italie du Sud?
Non, pas encore, et ni en Angleterre.
Bon, alors donc la Normandie, on va revenir à la Normandie.
Nous existons depuis 1974, donc très modestement, nous connaissons bien le marché normand et le marché du neuf, puisque nous réalisons du résidentiel, du bureau et du commerce. Alors, vos chiffres, Olivier, paraissent...
Ce sont les chiffres de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers.
Et ce sont les chiffres de l'Observatoire Wallon. Alors, il faut évidemment rappeler un petit peu quel est le marché du neuf à Caen depuis ces dernières années. Le marché du neuf à Caen se situe environ entre 850 et 900 réservations par an. Il y a eu en 2019 un pic exceptionnel, puisque nous avons atteint le plafond des 1400 réservations par an. Alors, ça ne vous a pas échappé, 2020 était une année particulière.
Clairement.
Voilà.
Surtout pour les promoteurs.
Notamment pour les promoteurs.
Enfin, pour beaucoup de monde, quand même.
Mais pour beaucoup de monde. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez eu le on-off ou le reset du marché ancien a quand même été très rapide. Oui. Il faut quand même constater. Mais alors, à votre décharge, bien évidemment, on a eu aussi les élections municipales. Et on a la chance, là, d'avoir un maire bâtisseur, quand même, réélu.
Alors, là, je peux témoigner de mon expertise par rapport aux différents territoires. Nous n'avons pas subi, à Caen, les élections municipales. Ce que je peux vous dire sur la baisse des réservations qui se situe aujourd'hui à 850 lots réservés sur 2020, s'explique tout d'abord parce que nous avons travaillé que 7 mois de l'année, premièrement. Deuxièmement, il y a eu une baisse des délivrances des permis de construire, non pas parce qu'il y a eu un frein politique, mais tout simplement parce que quand vous êtes confiné, les services n'instruisent plus les permis. Donc il y a un ralentissement des instructions et donc des autorisations, mais un rattrapage sur le deuxième semestre 2020, puisque quand on a tous retrouvé notre liberté, les permis se sont trouvé accordé. Donc avec probablement une répercussion positive sur 2021. Pendant cette période également de confinement, les délais de recours ont été gelés. Et vous savez ici, puisqu'on a une banque qui nous accompagne, que les promoteurs ne commercialisent pas les biens lorsque les permis ne sont pas purgés de recours des tiers.
Clairement.
Donc vous avez un cumul de facteurs qui explique assez facilement la baisse du nombre de réservations sur Caen, mais qui, sur 10 ans, représente un nombre normal de réservations sur notre territoire.
Donc, pas d'affolement.
Pas d'affolement, bien au contraire, moi je reste plutôt optimiste. Alors, vous avez sur ces mêmes chiffres pu voir, et M. le maire l'a souligné tout à l'heure, qu'on a 74% d'investisseurs, 26% de résidences principales qui ont réservé un certain.
74% d'investisseurs.
Oui, oui.
C'est du Pinel.
Alors c'est notamment, oui, c'est principalement du Pinel. Hein,
donc savez bien. Ce qui traque, non mais c'est intéressant parce que pour le dire à nos auditeurs, ce qui traque le marché du neuf aujourd'hui, c'est donc l'assiette fiscale.
Ouais, alors ça dépend vraiment des endroits. Hein. On parlera de la presqu'île tout à l'heure, ou là, l'inverse, la résidence principale.
Mais globalement, vous étiez d'accord pour la prorogation du dispositif Pinel, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, puisque ça a permis de doper l'investissement et ça permet aussi aux personnes d'accéder à des prix de la location quand même abordable, on
absolument,
est d'accord.
Absolument. Bah, si on supprime demain et le Pinel et par exemple le prêt à taux zéro, au niveau de la construction, ça va être difficile.
Ouais, double peine.
Ce sera plus compliqué, mais...
Donc pour l'instant, c'est prolongé, le Pinel. Voilà. Donc il y a un vrai attrait, en tout cas, des investisseurs. Et quelles sont, si on devait faire avec vous, une projection sur les principales opérations neuves qui sont menées actuellement? Où sont-elles?
Alors, on constate que 46% des opérations neuves actuellement sont dans des zones aménagées, donc des zones maîtrisées par les pouvoirs publics. C'est plutôt un bon signe. Et le reste des opérations sont plutôt diffus. Donc on a Caen, évidemment, qui maintient son activité classique. La première couronne de Caen, donc à la fois sur le nord de Caen, sur le sud également, qui connaît un accroissement important parce que disponibilité de foncier a relativement, on va dire, conséquent, hein, à l'intérieur du périphérique. Donc, et on a un petit peu la côte fleurie, la côte de Nacre, qui là aussi tire son épingle du jeu.
Voilà. D'accord.
Alors, surtout la côte de Nacre.
Et est-ce que la...
Une dernière question et on enchaîne.
Non, mais est-ce que les effets de la pandémie, avec aussi les conséquences à la fois dans nos vies quotidiennes sur le télétravail, sur les besoins d'espace et tout ça, est-ce que les promoteurs prennent conscience, et notamment en Normandie, peut-être de construire ou différemment, ou d'apporter des immeubles qui soient mixtes, où on puisse retrouver justement des espaces partagés? Est-ce qu'il y a vraiment cette prise de conscience qui a cet effet accélérateur, révélateur de la pandémie?
Les professionnels de l'immobilier n'ont pas attendu le Covid-19 pour se réinventer. Néanmoins, Olivier, vous avez raison, ça les a fait positifs, poussé à des réflexions, notamment comment allier un lieu de travail au domicile,
l'espace, un balcon, une terrasse, néanmoins, de l'air, du verre et de l'espace.
Pour citer l'expérience d'Edelka, nous, ça fait déjà 40 ans que nous construisons des immeubles, et beaucoup de gens ici pourront le témoigner, avec des espaces extérieurs très généreux, des balcons très généreux, et des terrasses très importantes.
En béton?
En béton, en
briques. Est-ce que vous allez, par exemple, sur éventuellement l'utilisation des remblais? Est-ce que vous travaillez sur des problèmes de logistique? Est-ce que vous allez aller vers du bardage bois ou de l'ossature bois, etc., comme on en parle beaucoup? Je sais que vous êtes beaucoup très branché sur ce type d'innovation. Vous réfléchissez énormément.
Merci, Olivier. Voilà. Nous réfléchissons beaucoup.
Non, Olivier, c'est lui.
Sylvain.
Je vous taquine.
Vous avez raison, c'est sympa. Évidemment, on est obligé de suivre le mouvement, il y a une attente de la population, on doit être à l'écoute du marché, mais nous ne pouvons pas faire n'importe quoi, et je fais très attention et je suis vigilant au dogmatisme.
Je vais aller plus loin, Malek.
Parce que la construction bois, dans nos régions, je suis réservé.
Pourquoi?
Parce qu'on a un climat qui est fait que le bardage bois ne vit pas aussi bien que...
Et les structures bois, est-ce que c'est bon?
Oui, ça nous intéresse.
Par exemple, la plus grande tours, 500 logements bâtis à Strasbourg, qui fonctionnent plutôt bien tout en bois, c'est aussi une belle alternative. Justement, j'ai envie de parler à vous, monsieur le maire. Quand vous entendez un professionnel comme Malik Resgui, justement, qui est très ancré dans ces territoires, vous avez la particularité, et merci d'ailleurs au nom des promoteurs, d'être un maire qui signe les permis, qui est bâtisseur et qui est réélu, quand même, pour le dire. L'ossature bois, la filière bois, est-ce que c'est une bonne alternative pour la ville, pour le développement durable et pour la maîtrise de l'empreinte carbone? Il faut rappeler quand même que l'empreinte carbone du bâtiment, c'est le deuxième émetteur de carbone au monde. Donc il y a un gros enjeu là.
Non, mais c'est bien sûr. D'ailleurs, on essaie d'encourager à ça. On a lancé des appels à projets là sur deux. J'ai deux endroits en particulier en tête sur les un sur le quartier Saint-Jean-Eudes, un sur le quartier de la Folie Couvre-Chef, où on a fait un appel à projet justement sur cette base, hein, sur le fait d'utiliser des bâtiments bio, enfin du biosourcé, comme on dit. Oui, bien sûr,
des c'est un enjeu. Des éco-matériaux,
alors après, matériaux biosourcés. J'imagine que il y a toute une technicité qui va se développer autour de l'utilisation de matériaux alternatifs au béton, sans doute. Alors après, oui, je reprendrai volontiers ce que disait Malek Rezgi, c'est-à-dire que il s'agit pas d'être dogmatique, il s'agit de voir comment, y compris dans les process globaux de construction, comment on est plus économe en matière de rejet carbone, et tout ça doit être amené à la durée de vie du bâtiment. Là, voilà, il y a béton et béton, enfin, il y a toutes sortes de... Il faut tout considérer. Mais il est clair que le vrai défi, me semble-t-il, vu de l'extérieur, c'est en fait, parce qu'on demande un peu, on est parfois un peu dans l'injonction paradoxale vis-à-vis des promoteurs, objectivement, des constructeurs plus généralement, c'est que avec toutes les normes qu'on empile, on renchérit finalement le... Voilà, on renchérit
et
finalement...
Et on ralentit le processus de construction,
oui,
bien
évidemment. On renchérit en gros le prix de la construction et parallèlement c'est à sûr. Ça, on demande de faire des logements à des prix abordables.
Est-ce que, voilà, la mobilité, c'est une question qui vous préoccupe, bien sûr, mais...
Évidemment, voilà. C'est une question importante.
Alors la voiture dans le camp, qu'est-ce qu'on fait?
Je vous dirais volontiers que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, il faut avoir une politique d'équilibre. C'est-à-dire que une ville comme Caen n'est pas une agglomération de dimension internationale comme Paris. Elle a besoin, enfin, à supposer que Paris n'en ait pas besoin. Mais oui, bon, je laisserai aux Parisiens le débat. Oui. Caen a besoin de toutes ces personnes qui vivent à l'extérieur et qui chaque jour viennent à Caen et qui contribuent à la faire vivre, à tout point de vue, hein, sur le plan économique évidemment, commercial ou autre. Donc, on a besoin d'accueillir des gens qui habitent à l'extérieur. Alors, incontestablement, on peut pas les accueillir comme on les accueillait dans les années 70, où en fait tout était dimensionné en fonction de la voiture. Donc il faut effectivement, y compris en revalorisant un certain nombre d'espaces publics, ce qu'on a fait par exemple sur la place de la République, valoriser en enlevant le stationnement de surface, et donc mieux organiser les choses. Mais on gardera de toute façon
les voitures. Oui, ce que vous avez fait d'ailleurs sur l'accès à l'hôtel de ville, c'est magnifique, parce que vous avez préservé effectivement un équilibre.
Donc il faut avoir un équilibre, parce que je pense, et d'ailleurs les études le démontrent, que globalement, a fortiori en province, on n'abandonnera pas la voiture, même si on a aussi en projet une augmentation de notre capacité de transport en site propre, hein, puisqu'on vient refaire un premier axe de tramway nord-sud, on va refaire un est-ouest d'ici 7-8 ans. Il n'en demeure pas moins que ce que je pense vraiment, c'est que la voiture continuera à être utilisée. Ce qu'on essaiera de favoriser, c'est sans doute d'autres formes d'utilisation, et puis aussi évidemment des motorisations qui soient plus respectueuses de l'environnement. Mais encore une fois, cette notion d'équilibre, je pense qu'elle est importante à préserver.
Alors, je sais que vous aimez bien l'agenda. Je voudrais qu'on pose, vous savez, les bonnes petites questions. Il fait bon vivre. Hein, vous avez gardé ces questionnaires, l'agenda. Et juste une dernière question, puisque effectivement, on a un peu débordé du temps. On va se livrer avec un peu de montage.
Optimiste quand même sur le redémarrage du neuf, de l'immobilier neuf. Dans le secteur,
Très optimiste. D'abord parce que le marché est porteur, les conditions d'acquisition, les conditions de financement sont là, et que la demande est très forte sur Caen. Et aujourd'hui,
il y a une vraie demande. Hein.
Il y a une vraie demande. D'accord. Le stock de logements neufs à Caen est de 4 logements. Nous n'avons pas de stock logement achevé à France. Ah, pardonnez-moi, à Caen. Donc la demande est là. L'offre va arriver avec des projets emblématiques, le CHR, la conversion d'un site qui est le CHR. On va continuer sur certaines opérations dans le sud de Fleurig et dans le nord de Caen. Donc oui, je suis très optimiste sur le marché de Milletin, qui va être un marché de rattrapage. Sous réserve, messieurs.
Signal envoyé.
Sous réserve. Signal nous ayons 12 mois d'activité.
Signal envoyé.
On a déjà un mois.
Voilà, c'est ceux qui nous écoutent et aux investisseurs. Voilà.
Les clés de la ville. Bonne adresse.
Alors, première chose, peut-être pour faire du sport. À Caen. Alors, pour faire du sport.
Faire du sport, on part d'ici, en 5 minutes, en trottinant, vous êtes au cœur de la nature, au bord de l'Orne, avec la prairie, enfin, on a des espaces naturels en hypersente qui sont assez exceptionnels.
D'accord. Alors, si on revient à une situation, on va dire, normale, entre guillemets, vous voyez à quoi je veux faire allusion, pour boire un verre.
La rue Écuyère, le port, on réitérera sans doute d'ailleurs l'expérience qu'on avait menée l'année dernière, post-Covid, de remettre des terrasses sur tout au bord du port de Plaisance, avec l'embarras du choix.
Pour écouter de la musique.
Ah bah, selon vos goûts, vous pouvez aller au Cargo pour tout ce qui est musiques actuelles, y compris de l'électro. On a ici un grand festival Nordic d'Impact, par exemple, dans ce domaine-là. Mais vous pouvez aussi, si vous préférez le lyrique, voire le baroque, aller à une représentation, par exemple, de l'ensemble de Sébastien Dossé dans notre théâtre qui produit très régulièrement, y compris enfin avec des opéras internationaux, des œuvres en particulier de la période baroque.
Un jardin ou un espace vert à conseiller?
On est, je crois, en mètre carré par habitant, on est l'une des villes les mieux classées. Alors, c'est lié à la spécificité de la prairie, mais il y a un endroit très exceptionnel qui a été fait à Caen par l'un de mes prédécesseurs, à l'époque de Jean-Marie Giraud, qui est la colline aux oiseaux, qui est au nord de Caen et qui était un ancien dépôt d'ordures, qui a été complètement revégétalisé et aujourd'hui qui est un lieu de promenade assez fantastique. Il y a même une mini-ferme en haut qui plaît beaucoup aux enfants.
Trois personnalités incollables sur Caen. Trois spécialistes de la ville, vous diriez qui ?
Il y a beaucoup de gens à Caen qui s'intéressent à l'histoire de la ville. Alors, trois personnalités incollables sur l'histoire de la ville. Alors, je vais faire des jaloux, mais... Voilà, il y a des gens qui me viennent spontanément. Je vous parlais par exemple d'un historien, Roger Jouet, par exemple, qui est un grand historien de l'époque médiévale. Vous avez des gens qui, y compris qui sont des historiens amateurs, comme François Robinard, par exemple, qui travaillait d'ailleurs ici dans les services municipaux, qui connaît tout de l'histoire de la ville. Vous avez, alors je citerai plutôt qu'une personne en tant que telle, l'association Cadomus, qui est une association qui remet en valeur tout ce qui est tous les documents qui montraient le camp d'avant-guerre et qui a des collections assez exceptionnelles, par exemple.
Très bien. Et dernière chose, si l'on ferme les yeux, quand en 2030, comment vous l'imaginez, quand en 2030 ?
Je pense que même si on accueillera, on y compte bien de plus en plus, par exemple, de personnes qui voudraient échapper aux affres de la vie parisienne. Vous en serez peut-être, messieurs.
Et pourquoi pas ?
Je veux dire, on n'est pas dans un contexte national où il y a une explosion démographique. Donc, je pense qu'en 2030, on sera toujours une ville à taille humaine, où on aura encore plus de soins pour la qualité de vie au quotidien. C'est vrai que c'est une ville qui est déjà très verte, qu'on va encore verdir. Je vous parlais tout à l'heure des bords de l'Orne. On va créer ce qu'on appelle aujourd'hui une forêt urbaine. Avec effectivement sans doute une reconquête d'un certain nombre d'espaces qu'on avait trop souvent ignorés, en particulier tous les espaces au bord de l'eau, le canal qui nous emmène à la mer, parce qu'on a cette spécificité à Caen d'avoir un port de plaisance en centre-ville, quoique étant distant de 10 km du bord de la côte. Et ça, c'est des choses effectivement qu'on lance et qui vont progressivement effectivement redonner à Caen cette spécificité d'être un peu une ville verte et bleue en quelque sorte. Avec évidemment tous les services et toutes les offres que peut proposer une grande métropole, en particulier sur le plan de la vie culturelle, que tous les spécialistes s'accordent à considérer comme étant celle qu'on trouve plus facilement dans une agglomération de 500 000 habitants, alors même que la communauté urbaine en compte un peu moins de 300 000.
Merci beaucoup, monsieur le maire.
Merci beaucoup.
Alors, il est l'heure de nous quitter. Merci, c'était un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau. Nous sommes le mois prochain dans quelle ville ?
Alors, donc après Nantes, Lyon, Paris, Toulouse et aujourd'hui Caen, nos rendez-vous 2021. En mars, nous serons à Lille. En avril, à Bordeaux. En mai, nous serons à Annecy. En juin, à Montpellier. Sans doute à Marseille, à confirmer en juillet. En tout cas, voilà, c'était un sacré programme. Merci infiniment. Merci. Applaudissements,
merci,
peut-être.
Applaudissements.
Merci à tous.
Merci.
Merci beaucoup.
Je voudrais, si vous voulez bien, remercier aussi, on les applaudira, tous ceux qui ont organisé le programme, notre ami Rémi de Sagazan à la manœuvre, avec Alexandre Burkhardt, avec Nicolas Tarral, le journaliste qui est venu préparer. Merci à l'attaché de presse de la mairie qui a été adorable, nous a très bien accueillis. Merci à vous, Joël Brudeau, maire de Caen. Vous avez été adorable, vraiment très très bien reçu. Venez vivre à Caen, c'est une très bonne idée. Merci à Malek Rezgi de CDLK Europro. Merci d'avoir... Je sens la passion dans votre discours. Merci également à Pierre Leroy, merci à Aurélien Deleu, un clin d'œil habituel à Alain Hervé pour Arkéa. Merci à vous, Olivier.
Merci
à toutes les équipes. Merci aussi au fichier Amépi, notre amie Stéphanie Gaca qui a organisé cette venue. Merci à l'ensemble des personnels de l'Amépi aussi, toutes les personnes que je ne citerai pas qui vont bien sûr se reconnaître. On vous embrasse bien fort. On se retrouve toutes et tous le mois prochain sous vos applaudissements.
Les Clés de la Ville, en direct de Caen, une coproduction Radio Immo et Le Figaro Immobilier. Présenté par Sylvain Lévy-Valency et Olivier Marin, en partenariat avec le fichier Amépi, Arkéa Banque et Maxime.fr, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.immo et toutes les plateformes de streaming.